Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Spiritualité en question. Bonsoir. Alors j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois qui remonte depuis un mois déjà. Donc j'ai le plaisir encore d'accueillir Jean Gracier pour cette émission consacrée aux questions sur la spiritualité. Donc Jean, est-ce que tu m'entends ?
Je t'entends très bien, merci, je suis là. Bonsoir voilà. À tous.
Voilà, bonsoir également aussi à toi Jean. Donc, je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent, si vous voulez poser vos questions sur le domaine de la spiritualité à Jean, rendez-vous sur le site www.radioterrazen.net et cliquez sur le bouton « Poser une question ». Vous indiquez votre prénom, votre question sommairement, hein, pas la peine de faire non plus un trop gros roman. Et après, on répondra donc en direct à l'antenne, justement, pour ces questions. Alors, j'espère que vous allez bien aussi, Jean, depuis la dernière fois, hein, depuis un mois déjà maintenant.
Oui.
Oui. Voici une réponse claire et précise.
Pour moi, tout va bien. Oui, tout va bien. D'ailleurs, tout va bien.
Alors, c'est l'essentiel. Alors, on va commencer donc l'émission sur ces questions. Oui. Alors, c'est vrai qu'on parle de la spiritualité, mais qu'est-ce que c'est que vraiment la spiritualité ?
Ah, qu'est-ce que c'est que la spiritualité ? Il y a bien des livres qui ont été écrits là-dessus, on en parle beaucoup. Eh bien, la spiritualité, pour moi, c'est en fait l'objet principal de notre venue sur Terre. Hein. Bah, c'est se connecter à son âme, je pourrais dire. J'aime bien dire, résumer, donner cette définition de cette définition. En disant ça, se relier à son âme, faire la connexion entre le corps physique, émotionnel et mental, et ce corps spirituel qui est en nous, en fait, qui est notre vrai moi. Hein. C'est l'âme que nous sommes en réalité, venue sur cette terre vivre des expériences dans la matière.
D'accord.
Et c'est ça la spiritualité, c'est cette connexion que nous sommes. Qui nous est demandé de faire, d'atteindre dans cette incarnation. Pour moi, c'est ça. Hein, voilà. Ça peut se résumer à ces quelques mots-là. Hein, voilà.
D'accord. Et parce que souvent, très souvent, bon, je sais que ce n'est pas trop un sujet de l'émission, mais beaucoup, quand on parle de spiritualité, ils se réfèrent tout de suite à la religion. Pourtant, ça n'a pas forcément rapport avec la religion.
Ben oui, bien sûr. On peut faire appel à la religion quand on parle de spiritualité. Pour moi, la spiritualité, elle est partout. Et en fait, dans notre vie, nous sommes toutes les actions qu'on peut faire dans la journée peuvent se rapporter à la spiritualité. Et si je fais appel à mon âme pour telle ou telle action, je fais de la spiritualité, ou du moins, je vis ma spiritualité. Les religions se sont emparées... se sont emparés de vérités, comment on pourrait dire, de ce qui fait l'essence des religions, ce qui les a construits, et elle s'est emparée de la spiritualité. Mais les religions, je voudrais pas trop en parler parce que moi j'ai baigné dans la religion catholique pendant des années, j'ai fait une longue carrière d'ailleurs, Et je connais bien ça. Je n'ai rien à regretter, bien entendu. Je ne regrette rien de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vécu. Mais de la religion catholique, j'en suis sorti parce que bah, y a des choses qui ne m'ont plus convenu. Hein. Et je suis allé justement vers la spiritualité. C'est-à-dire, je suis sorti de la religion pour aller vers la spiritualité. La religion est remplie de dogmes, de règles. C'est tout un énorme concept qui a pris comme ça quelques vérités dans l'histoire. Si on parle de la religion catholique, l'histoire du Christ et tout ce qui était autour, tout ça, tout est vrai, bien sûr. Mais la religion a inventé, on peut dire, a créé d'autres choses. Elle a créé tout un dogme, hein, que le Christ, d'ailleurs, ne voulait pas, hein, je pense.
Oui.
Voilà, moi, je suis sorti de la religion catholique justement pour aller vers quelque chose qui est vraiment l'essence même de la spiritualité. C'est ma connexion à mon âme. Et j'essaye de vivre chaque jour dans cet état d'esprit, dans ce niveau de conscience. Parce que la spiritualité, quand on la vit, elle nous élève en conscience. Elle nous permet de monter en vibration et d'élever. C'est ça qui nous est demandé dans cette incarnation, de monter notre niveau de conscience. Justement par cette connexion. Hein. Voilà. Voilà.
D'accord. Alors, il faut bien aussi notifier que élever sa conscience, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Hein. C'est pas. Parce que je sais que je l'ai déjà lu, c'est pour ça.
Oui, bien sûr. Oui, mais non, mais bon, on peut confondre parce que l'emploi des mots. Bien sûr que les mots, c'est difficile d'employer des mots, mais on n'a que les mots à notre disposition pour expliquer les choses. Mais chacun y met sa propre définition, donc des fois, on a du mal à s'entendre. Mais élever sa conscience, c'est changer de vibration, c'est changer son regard sur les choses, sur les autres, sur soi-même. C'est changer de perception. Et c'est ça, élever sa conscience. Alors la conscience passe, le niveau de conscience passe par la connaissance, hein. Donc la connaissance, bien sûr, là on est un petit peu dans le mental, mais la connaissance va nous permettre justement de changer notre regard sur les autres et sur soi-même. Et c'est ça qui nous permet de nous élever en conscience. Voilà.
D'accord. Alors justement, tu parlais du mental.
Oui.
Alors quelle est la différence parce qu'on a, entre le mental et l'ego? Parce qu'on entend très souvent...
Oui.
Que le mental c'est l'ego c'est le mental, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très claires. Donc, qu'est-ce que c'est que la différence entre les deux?
Alors, pour dire simplement, je dirais que l'ego est une création du mental. L'ego, c'est un outil du mental. Mais bien sûr que moi aussi, je suis un peu dans la confusion quand j'en parle, parce que c'est difficile d'expliquer. Et puis peut-être que je n'ai pas l'explication définitive, moi, de ça. Mais je mets un petit peu dans ce même concept le mental, l'ego, le corps physique, etc. Hein, tout ce qui fait partie de l'incarnation. Tout ce qui fait partie de ce monde de la troisième dimension. Mais voilà. Mais l'ego, pour moi, c'est... Bien sûr qu'on fait cette confusion, l'ego, le mental. Mais pour moi, l'ego, c'est un outil du mental. C'est ce qui fait notre personnalité. Hein, voilà. Et bien sûr que le mental n'est pas à rejeter, hein, comme on le voit souvent. Le mental en a grandement besoin. Il est tout à fait extraordinaire dans ses potentiels et ses qualités. Il permet de faire mille et mille choses. Hein. Il a un potentiel tout à fait extraordinaire, le mental. Donc il n'est pas question de le rejeter, mais il est question de lui dire « toi, reste à ta place ». Voilà. C'est comme ça que je parle à mon ego. Parce que l'ego, bien sûr, est toujours là. L'ego, c'est ça qui nous amène toujours à considérer les choses d'une certaine manière, mais qui ne nous emmène pas vers là où on doit aller, en quelque sorte. L'ego nous emmène toujours vers le mur. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. J'aime bien citer un enseignant spirituel qui s'appelle Emilio Carrillo, qui est un Espagnol. Malheureusement, il fait tout en espagnol, rien en français. J'ai la chance de comprendre l'espagnol avec mon épouse, donc on écoute beaucoup ce qu'il dit, et c'est tout à fait intéressant. Et il a beaucoup d'humour. Et je lui emprunte souvent des images. Par exemple, il dit, et je m'en sers beaucoup dans les stages, et je le dis, je le répète souvent, il dit que ben, nous sommes, nous, sur cette terre, nous sommes le conducteur, et notre corps est la voiture. Ça, c'est une métaphore qu'on entend souvent. Hein,
oui, c'est vrai.
Et c'est vrai qu'il dit aussi, imaginez par exemple que ben Cédric, je ne sais pas où tu habites, dans quelle ville, mais par exemple, tu décides d'aller dans tel endroit. Alors, par exemple, tu décides d'aller à Bordeaux. Mmh. Et tu rentres dans ta voiture, et toi, tu as décidé d'aller à Bordeaux. Et quand tu rentres dans la voiture dit non, 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 on va à Agen. Et toi, tu dis non, 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 j'ai décidé d'aller à Bordeaux. Et la voiture dit non, non, on va à Agen. Alors, tu dis, alors qui va. Est-ce que vous allez aller à Bordeaux ou à Agen, toi et ta voiture? Tu vas aller à Bordeaux, tu as décidé d'aller à Bordeaux.
Bah oui.
Ben, regarde un peu dans la vie, ben c'est cette dualité. C'est toujours ce rapport entre qui dit quoi. Est-ce que c'est le mental ou est-ce que c'est l'âme, nous, ce que nous sommes en réalité? Eh bien, justement, le mental prend le pas sur l'âme bien souvent. Et on écoute le mental au lieu d'écouter son âme. Ce qui fait que quand on rentre dans la voiture, on ne s'en rend pas compte, mais on va à Agen plutôt qu'à Bordeaux.
Oui.
Et c'est ça, pour moi, l'essence même de la spiritualité, c'est d'aller justement, de faire ce discernement entre l'âme, ce que dit l'âme, et ce que dit l'ego. Voilà. Et à chaque fois qu'une décision doit être prise, il y a mille manières dans la journée, mille occasions de ce qui se présente. Et à partir desquels on peut se poser cette question. Voyons, qui parle là? C'est l'ego ou c'est l'âme? Ça, c'est une question qu'on doit se poser sans cesse. C'est ça, faire de la spiritualité, si tu veux, tu vois.
Oui.
Et ça, c'est très important. Et quand on est dans ce niveau de conscience, après, bien sûr que le discernement s'exerce de plus en plus. Il s'affine de plus en plus. Et de plus en plus, on est à l'écoute de son âme. Et à ce moment-là, de plus en plus souvent, on va dans la bonne direction. On va là où on doit aller. Mais c'est difficile. C'est difficile.
Oui, au début, oui.
Tout à l'heure, je raconterai une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Enfin, voilà. Donc voilà ce que je peux en dire. Mais bien sûr qu'on peut en dire. On peut en dire beaucoup là-dessus. D'ailleurs, j'ai oublié la question même du départ. Tout à l'heure, parce qu'après je peux partir sur d'autres voies. Dis-moi, Cédric, ramène-moi à ta question.
Oui, alors justement, parce que j'étais parti aussi avec toi sur ça, je crois que la question c'était justement ce rapport de mental ego où ça emmenait. Et justement, par rapport à ça, j'ai aussi une petite anecdote. Pour les gens qui n'arrivent pas à trop dire qui est en train de parler, souvent, c'est un moment de dire. Ah, mais bon sang, je le savais que c'était ça. Et souvent, et dire, mais pourquoi je ne me suis pas écouté? Et bien, justement, quand ça vous arrive, dites-vous que celui que vous n'avez pas écouté, c'est justement votre âme et que vous avez en fait écouté votre mental. Ça, c'est quelque chose qui m'a aidé. Parce que souvent, comme ça, je me disais, mais mince, non, c'est pas ça que je voulais faire. Et pourtant, je savais qu'il fallait faire comme ça.
Ouais.
Et là, je me suis dit, ah oui, en fait, je ne me suis pas écouté.
C'est ça.
C'est un truc tout bête, mais ça permet comme ça que quand ça arrive, de savoir qui parle, et après, au moment où on prend une décision, on sait qui parle, si c'est l'âme ou si c'est le mental. Et après, bah, ça devient une gymnastique, et après, c'est un automatisme. Enfin, pour que ce soit vraiment un automatisme, j'en suis pas à ce niveau-là non plus, parce que les erreurs, on en fait toujours. Et d'ailleurs, je pense qu'aussi, de nos erreurs, on apprend.
Bien sûr, et bien entendu. Bien entendu. Il faut jamais se lamenter d'avoir fait, de s'être trompé. C'est en se trompant qu'on apprend. Mais c'est vrai que d'écouter son âme plutôt que son ego, c'est un exercice très difficile qui ne s'apprend pas comme ça en 5 minutes. C'est un long apprentissage, mais c'est parfait de se tromper et puis de revenir dans le bon chemin. Ça, c'est pas un problème. Le bon sens populaire nous dit la bonne décision est toujours la bonne. Toujours la bonne. Quand il nous vient une première idée, c'est souvent la meilleure. Et d'ailleurs, c'est assez vrai. C'est assez vrai de le constater. Et souvent, le mental vient par-dessus et commence à raisonner et nous enlève cette première idée, cette première impression qu'on avait. Et ensuite, le mental, ben, après, il raisonne, et là, il nous amène dans le mur, parce qu'il nous fait prendre une autre direction qui n'est pas la bonne. Alors, c'est vrai que c'est un truc, ça, mais ce n'est pas toujours vrai. Hein, ce n'est pas toujours vrai. Et comment faire pour, justement, décerner la vérité, hein, trouver le bon chemin? Mais ça, ce n'est pas facile. Alors, ce que nous enseignons avec mon épouse, c'est cette philosophie qui s'appelle Ho'oponopono. Et je peux dire que vraiment, depuis qu'on pratique Ho'oponopono, ça fait déjà 8 ou 9 ans, ça fait 9 ans déjà, eh bien, on a appris justement à faire ce discernement. Et on a appris à converser avec son âme et à écouter ce qu'elle a à nous dire, plutôt que d'écouter l'ego. Et ça, c'est un long apprentissage. Mais ça, on est arrivé à des résultats tout à fait étonnants, quoi, hein, mais qui se concrétisent dans des faits de quotidien, des faits de tous les jours, des petites choses. Hein. Et c'est ça qui est important, pour avoir une vie tout à fait, une belle vie, une vie agréable, harmonieuse, et une vie de paix. Et c'est justement d'être en paix soi-même. Bon, ça c'est le principe d'Ho'oponopono, mais c'est vrai que ce principe nous a amené justement à aiguiser notre discernement et aller là où on doit aller toujours plutôt que suivre son ego. Ouais. Et d'ailleurs là, j'ai toujours des histoires à raconter de ce qui nous arrive. Juste un mot sur Ho'oponopono, c'est le principe, c'est de nettoyer des mémoires. Et dans quel but? Dans le but d'être en paix. D'être en paix. Et c'est vrai que quand on est dans un état de paix, on peut dire d'autres mots, un état de vide, l'état zéro, l'état où on est vraiment sans attente, complètement détaché, dans un lâcher-prise total. Et c'est là que la connexion se fait avec son âme. C'est pour ça qu'avec Ho'oponopono, c'est tout à fait merveilleux. Cédric, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a une semaine. Nous étions en déplacement et on s'est trouvé en Espagne. On était donc à Valencia. Nous devions prendre le train le lendemain matin à 10h. Et nous étions, nous arrivions par le... on avait loué une voiture et il était 6h30 par là. On arrive à l'hôtel, on pose nos bagages, ils étaient nombreux, ils étaient lourds, parce qu'on arrivait de deux stages précédents, et on devait rendre la voiture le soir même à 7h30, à 19h30, plutôt que le matin, parce que le lendemain matin, nous n'aurions pas eu le temps, la boutique ouvrait à 9h, et le train partait à 10h, il n'était pas possible de le faire, il fallait absolument qu'on le fasse le soir. Bon, je quitte l'hôtel, avec la voiture, et seul parce que mon épouse devait faire autre chose. Bien. Et j'avais une demi-heure devant moi. Alors une demi-heure, je me dis, sur le plan, il y avait 1,5 km ou 2 km. Bon, ben, c'est bon, je vais y arriver tranquillement. Mais je n'avais pas tenu compte de la circulation, des embouteillages, de la méconnaissance de la ville et des grandes artères qu'il fallait que j'emprunte et que je traverse. Bien. Alors, je vous passe les détails, oui. les erreurs que j'ai faites, les embouteillages que j'ai connus. Bref, il m'a fallu un tout petit peu plus d'une demi-heure, en fait. Ce qui fait que quand je suis arrivé face à cette boutique, c'était dans une grande artère. Je me suis garé n'importe comment. Il était 19h31 à ma montre. Je gare la voiture n'importe comment. Je cours, je traverse l'artère. J'arrive devant la boutique. Elle était éclairée, mais elle était fermée. Là, en quelques secondes, d'un coup, je vois un petit peu le stress qui est monté, parce que le stress qui est monté par le fait de cette demi-heure qui est passée dans les embouteillages, j'étais suant comme tout, essoufflé. Et puis il me dit, mais le lendemain matin, je ne vais pas pouvoir rentrer cette voiture. Donc c'était assez stressant, quoi. Mais aussitôt, hein, en quelques secondes aussi, je me suis dit, non, stop, il faut que je retrouve la paix. Il faut que je retrouve la paix. Il faut évacuer tout ce stress. Et j'ai l'habitude maintenant, je peux le faire assez rapidement. Et là, en face de la boutique, là il faut s'arrêter tout de suite. En face de la boutique, j'ai fermé les yeux et je me suis mis à nettoyer les mémoires comme on le fait quand on enseigne Ho'oponopono, quand on pratique Ho'oponopono. Et en quelques secondes, je me suis retrouvé dans un état de paix, complet. C'est-à-dire que j'étais sans attente, rien. J'étais dans un lâcher-prise total, dans l'acceptation de ce qui arrivait. C'est-à-dire que je me suis mis, en quelque sorte, dans un état de méditation. Hein. Et c'est ça, nettoyer la mémoire. C'est d'être dans un état vide. Je suis resté à peu près une minute comme ça, les yeux fermés face à la vitrine, qui était éclairée, mais qui était fermée. J'ouvre les yeux, et quand j'ouvre les yeux, je vois du fond du magasin arriver un enfant joyeux et qui courait, suivi d'une femme dont j'ai pensé tout de suite que c'était sa mère. J'ai frappé à la vitre, elle m'a vu, elle est venue, elle avait oublié quelque chose, et elle revenait pour le rechercher. En 3 minutes, on a réglé nos affaires, et je suis parti tranquille. Vous voyez, une petite histoire comme ça, ça a l'air de rien.
Oui.
Je prends la peine de la raconter parce que c'est exactement ce que je disais précédemment. Si je suis en paix, à ce moment-là, mon âme peut agir. Mais quand je suis dans le stress, pendant une demi-heure, j'ai oublié tout ça. J'étais dans un stress énorme, à essayer de trouver mon chemin. J'étais dans un stress énorme qui a eu sa culmination en face de la boutique fermée. Et dès que je me suis trouvé en paix, mais il arrive exactement ce qui doit m'arriver. La boutique s'est ouverte. Ça a l'air d'être un miracle. De cette manière dont je la raconte, ça a l'air d'être un miracle. Mais il n'y a pas de miracle. C'est juste que je me suis connecté. Juste ça. Rien d'autre. Rien d'autre. Vous voyez ? Parce que le stress, c'est un des meilleurs instruments de l'ego.
Oui.
Le stress, c'est un instrument de l'ego. Quand on est en stress, on est sous la domination de l'ego. Tout simplement. Ça, voilà, c'est un indice. Mais quand on est en paix, là, c'est l'âme qui commande. Et là, c'est super.
Ah oui, mais d'ailleurs, j'ai raconté aussi une petite anecdote qui m'est arrivée pas plus tard qu'hier. J'étais allé avec une amie manger dans un endroit vraiment superbe. Hein, un coin, d'ailleurs, on peut même le dire, hein, pour les gens qui connaissent, hein, Fontaine du Vaucluse, un endroit qui est vraiment très beau à voir.
Je connais, c'est très beau. Ouais.
Voilà. Et du coup, il faisait soleil et tout ça. Et bon, moi, j'en profitais. Enfin, j'étais là. Ouais. Et bon, j'avais mangé un petit peu avant, mais j'avais encore un petit peu faim.
Ouais.
Et elle prenait un repas et tout. Et au moment de commander comme ça, bon, moi, j'avais envie de commander quelque chose parce que j'avais envie de manger un petit truc pour profiter du cadre. Et comment dire ça ? Tout de suite, il y avait la peur de l'ego qui disait « Ouais, mais attention, faut pas trop que tu dépenses parce que tu vas avoir les impôts à payer, machin, tout ça. » Et à un moment, j'ai une petite voix qui m'a dit « Fais-toi plaisir. » Et je l'ai écouté. Je me suis fait plaisir. J'ai pris un petit truc dans mes moyens. Je me suis fait un petit truc. J'ai bien profité d'écouter le bruit de l'eau qui coule, les oiseaux qui passaient, regarder les canards. Enfin voilà, j'étais vraiment dans le lieu à profiter. Et au moment de payer, donc la personne qui m'accompagnait a payé.
Ouais.
Et à un moment pour payer ce que j'avais pris, la personne me disait un tarif. Et je dis vous êtes sûr qu'il n'y a pas une erreur? Elle me dit non, elle dit c'est ça, parce que je dis normalement c'était plus cher. Elle me dit bah non, moi c'est ça, donc du coup en fait c'est venu comme ça que j'ai payé moins cher, parce que j'ai profité, parce que j'étais plus du tout dans le stress de dire je vais pas avoir assez, et du coup univers ou Dieu, peu importe le nom qu'on lui donnera, j'ai eu une aide qui est venue parce que j'ai profité du moment et que je me suis écouté, j'ai écouté la petite voix qui me disait fais-toi plaisir. Voilà. C'est une autre petite anecdote, mais ça peut paraître vraiment du miracle. Bon, c'était pas non plus une très grosse somme,
mais
c'était un petit coup de pouce qui m'a laissé, qui m'a interpellé. Et puis aussi, c'est parce que j'avais fait aussi des prières par rapport à quelqu'un qui a des gros soucis en ce moment. J'ai pris ça aussi, que c'était un retour comme quoi que cette prière pour cette personne avait été entendue. Et que aussi, que je me suis fait plaisir. Alors, certes, il y en a qui vont se dire, mais c'est peut-être un coup de chance, machin, nanana. Non, là, c'est même plus de la chance. C'est quand on est, quand on n'attend rien. Et ça, je peux le confirmer, parce que là, je n'attendais même pas qu'on me fasse une remise. Hein. Franchement, honnêtement, j'étais à milieu de penser à ça. Quand j'ai fait ça, et j'étais même honnête parce que j'ai dit non, mais c'est plus cher. Et la personne me dit non, sur la caisse, elle dit non, non, moi c'est ce prix-là, elle dit payez ce prix-là, elle dit vous inquiétez pas, moi ça ne va pas me causer de problème.
Et ouais. C'est un bon exemple, très voilà. Bien. Ouais.
Et ça, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde parce que souvent, moi, je le vois et on me le dit aussi, on me dit mais comment tu fais ? Alors, je leur explique un petit peu tes techniques, hein, justement du Ho'oponopono, de ne rien attendre, enfin. Des trucs assez simplifiés hein, pour vraiment, parce que si je rentre dans le truc vraiment compliqué, les personnes vont être tout de suite larguées. Donc je rentre sommairement et souvent il y en a qui me disent ouais, mais non, mais c'est quand même le miracle. Alors qu'en fait, c'est ce que tu dis justement par rapport à ça, c'est pas un miracle, c'est.
Et non, c'est pas un miracle, c'est quelque chose de naturel.
Voilà, fait. C'est ça.
Et oui, mais c'est ce quelque chose de naturel qui n'est pas naturel encore à beaucoup de gens, mais qui est naturel parce que. Voilà, tu es connecté à ce moment-là et ça marche. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est pas, en fait, quand je dis ça marche, c'est faux. C'est pas le mot qu'il faut employer. C'est que ce qui doit arriver, doit arriver. Voilà,
voilà tout à fait.
J'ai un autre petit exemple, mais il me vient comme ça, celui-ci, parce qu'il m'avait un peu amusé. Je vais chez le dentiste il y a quelque temps, comme ça, et je cherche mes papiers, et j'avais pas ma carte vitale, ni la carte de crédit. Bon, moi, je cherche ma carte. Mais toutes mes cartes dans un petit portefeuille que j'ai. Et je ne le trouve pas. Ah mince, alors je cherche partout, et en cherchant, le stress commence à monter. Et j'oublie encore. Bon, alors je cherche, j'essaie de me calmer, mais je cherche. Et ce n'est pas ça qu'il faut faire. Mais je continue de chercher, et je ne trouve pas. Alors je vais chez le dentiste. Alors je circule toujours en scooter, moi. Je suis en scooter et je vais chez le dentiste avec toujours dans la tête l'idée de me dire où est-ce que j'ai mis ce portefeuille avec ces cartes. Donc je vais chez le dentiste et je ne peux pas le payer, bien sûr. Mais comme c'est un ami, donc ça va. Oui. Il me dit, bah, voilà, tu repasseras. Et quand je sors, je reprends le scooter et là, je me dis, oh, il faut que j'arrête dans ce stress. Je vais commencer à nettoyer ces mémoires. Hein, parce que ça revient toujours à ça. Nettoyer les mémoires qui ont créé cela, qui ont créé ce stress, qui ont créé le fait que je ne trouve pas ces cartes. Parce que d'un coup, je pensais qu'on me les avait volées. Donc, je voulais aller à la banque pour faire opposition. Enfin. Et sur le scooter, et là, je me régale, bien sûr, quand je suis sur le scooter. Et d'ailleurs, il m'arrive beaucoup de choses aussi en vélo, hein, quand je suis en vélo. Et c'est des moments où je suis seul. Et là, sur le scooter, en rentrant chez moi, je me suis mis à me mettre dans un état de paix. Juste. Dans un état de paix. Et c'est toujours pareil, état de lâcher prise, d'acceptation, d'être sans attente et de prendre la responsabilité de ce qui m'arrive. Et là, j'arrive chez moi et sans réfléchir, je pose le scooter et je vais droit où était mon portefeuille avec mes cartes. À un endroit, effectivement, un endroit où je n'avais pas l'habitude de le mettre, j'y vais droit sans réfléchir, il était là. Vous voyez ? Voilà. Alors, ça, c'est un exemple, mais ça arrive à des gens, bien sûr, ça arrive tout le temps ce genre de choses. Mais c'est justement au moment où on est en paix, au moment où on fait ce vide-là, et au moment où on est connecté. Alors, bien sûr que quand on pratique Ho'oponopono, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire très, très souvent. Ce qui ne veut pas dire que tous les gens, il ne leur arrive pas de temps en temps d'être connectés, bien sûr que si. Mais ils le font à leur insu. Oui. Ça leur arrive de temps en temps, bien sûr. Ça arrive à tout le monde. L'important, c'est d'être connecté en conscience.
Tout à fait.
Et c'est ça qui est merveilleux.
C'est vrai que justement, bon, le côté des objets perdus, souvent, oui. Bon, je sais parce que moi à l'époque, ça m'était arrivé, mais bon, c'est pas qu'à moi, hein. Ça arrive à des milliers de personnes en France et même dans le monde des millions, qu'on cherche un objet, on le cherche absolument et forcément. Comme tu dis, le stress monte, et plus on se stresse, et plus on s'énerve, et moins on le trouve.
Ah ben bien
et à un moment, on bien dit, sûr. Bon, hop, je lâche, c'est bon, j'en ai marre, machin, nana, on oublie. Et après, on cherche autre chose, paf, le premier truc qu'on trouve,
oui.
C'était cet objet. Et le plus souvent, c'est souvent dans des endroits qu'on a regardés.
Oui, et on ne le voit pas.
Et on ne le voit pas. Et pourtant, on se dit, mais bon sang, j'ai regardé, j'ai retourné le tiroir, il était là. Comme si l'objet il était devenu invisible.
Exactement.
Donc oui, effectivement, tout le monde se connecte, mais n'en ont pas la conscience ou la connaissance.
Oui, exactement, c'est ça. Et oui, c'est ça. Et des objets perdus, bon, c'est vrai que ça, c'est fréquent. Mais voilà, des exemples comme ça foisonne. Mais c'est, voilà, et pour moi, c'est ça la spiritualité, c'est être connecté le plus souvent possible. Pour que, voilà, pour vivre d'une manière qui est différente. Et parce que c'est ça qui nous est demandé dans cette incarnation, justement. D'abandonner la domination du mental à travers l'ego. Parce que l'ego est l'outil du mental, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et être dans ce. J'ai défini cinq étapes, mettons que j'en ai six plutôt. Six étapes, je définis Ho Oponopono à travers ça, mais en fait, tout se fait dans le pardon, par exemple. C'est d'abord de prendre la responsabilité de ce qui arrive, puis être dans l'acceptation, bien sûr.
L'acceptation.
Et puis être sans jugement. Dès qu'on est dans le jugement, c'est un des passe-temps favoris de l'ego, hein. Sans jugement, être dans un lâcher-prise total, mais complet, à 100%, dans la gratitude, bien sûr, parce que ce qui arrive, c'est une occasion pour moi de nettoyer ces mémoires, et puis être dans la joie. Dans la joie. Quand on a un visage fermé, puis on peut pas, il peut pas se passer quelque chose, il peut rien se passer de bon. Mais quand on est dans la joie, parce que la joie, c'est un peu l'aboutissement de tout ça. Si je suis responsable, je suis dans l'acceptation, je suis sans jugement, je suis dans un parfait lâcher-prise et j'accepte les choses dans la gratitude, ben, forcément, la joie m'envahit. Et quand je suis dans ces six étapes, en quelque sorte, je suis obligatoirement en paix. Et si je suis en paix, je suis connecté. Voilà le processus, hein. Ça, c'est le processus qu'on a mis en place, en quelque sorte, avec mon épouse. À force de pratiquer Ho Oponopono, eh bien, voilà, on a mis c'est un processus qui est simple, qui n'est pas facile à intégrer, hein, et à vivre. Je ne dis pas qu'il est facile, mais il est simple. Il est très simple. Mais à vivre, c'est merveilleux ensuite. Voilà.
Oui, et justement aussi, très souvent, les personnes confondent la simplicité et ah, ça y est, j'ai perdu l'autre mot,
La facilité.
la facilité, voilà.
Oui, c'est sûr. Oui, bien sûr. Mais c'est dans la simplicité, justement, qui est la puissance, la plus grande puissance de ce que nous avons là, de ce que nous pouvons déployer en nous, quoi. C'est dans la simplicité. C'est pour ça que les religions ne sont pas simples. Ça
Non,
demande
c'est
des
exact.
études pour les vivre, pour les comprendre. Et en fait, tout est beaucoup plus simple, mais bien plus puissant. Parce que justement, par cette simplicité, eh bien, quand on est connecté, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que Dieu est à l'intérieur de nous. Dieu n'est pas à l'extérieur, comme on veut bien nous le faire croire. Non, non, Dieu n'est pas à l'extérieur. Dieu est partout, mais il est surtout en nous. Il est surtout en nous. C'est ça, pour moi, cette vérité qui nous apparaît quand on est connecté, quand on vit cette spiritualité. Eh bien, et c'est par cette simplicité, justement, qui nous fait comprendre la puissance qui est en nous. C'est une puissance bah, totale, totale,
Immensurable.
ouais. Qui fait que nous sommes créateurs de tout ce qui nous arrive. Et ça, c'est une. Alors ça, c'est le premier principe, être créateur, être responsable de tout. Et ça, c'est important de comprendre ça, parce qu'en fait, rien ne nous arrive qui ne soit pas de notre fait. Rien, rien. Ça, faut bien comprendre ça. C'est important. Rien ne nous arrive qui ne soit pas, qui ne vienne pas de nos mémoires, qui ne vienne pas de nous. Et ça, c'est le premier grand principe. Et pourquoi il est très important? Parce que il nous enlève la culpabilité. Enlever la culpabilité, c'est quelque chose de très important. Et c'est ce que, en fait, nous enseignent les religions. Elles nous enseignent que nous sommes des pécheurs. Non, non, nous ne sommes pas pécheurs. Il n'y a aucun coupable nulle part. Il y a juste que nous sommes créateurs de tout ce qui nous arrive, et ça, c'est important. C'est pas facile à intégrer. Il faut un petit peu de temps. Et c'est ça qui est. Et quand on intègre cette dimension, le fait que nous sommes créateurs de tout ce qui nous arrive, eh bien, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on abandonne le rôle de victime et on reprend notre pouvoir. Parce que, regardez comment on a vécu. Et aussi, regardez un peu comment les religions nous amènent. Elle nous amène vers un monde où nous sommes victimes, où nous abandonnons notre pouvoir à quelqu'un d'autre. En fait, non, non, le pouvoir est en nous. Hein. Il n'y a aucun pouvoir à l'extérieur. Ça n'existe pas.
Non, ça c'est vrai que moi souvent je fais le truc qui me dérange le plus, c'est dire Dieu est notre berger et nous on est ses agneaux, ses moutons. J'avoue que moi ça me fait hérisser les poils quand j'entends ça, moi ça me parle pas du tout, quoi. Donc...
Oui, effectivement, ça c'est des images qu'on nous a créées comme ça, qu'on nous a enfoncées dans le crâne en quelque sorte. Mais non, Dieu sur un nuage qu'on dessine avec une barbe, bon, ça c'est... C'est l'enfantillage, quoi, mais c'est, y a rien, y a aucun Dieu de cette manière. Le Dieu est en nous. Dieu, c'est une énergie qui est partout. Quand vous regardez une fleur, ben, c'est Dieu que vous regardez. Si vous regardez le soleil, c'est Dieu que vous regardez. Et si vous vous regardez dans la glace, c'est Dieu que vous regardez. Mais ça, il faut avoir conscience que nous sommes Dieu. Que nous avons la divinité à l'intérieur. Et je peux dire que nous sommes Dieu. Nous sommes une parcelle de Dieu, mais si nous sommes une parcelle de Dieu, nous sommes Dieu, puisque tout est hologramme.
Oui.
Tout est hologramme. Donc, si nous sommes une parcelle de Dieu, nous sommes Dieu.
Et attention à ceux de dire de ne pas se prendre pour un Dieu.
Ah non, bien sûr,
c'est pas pareil.
Dieu. Mais Cédric, toi, tu es Dieu entier. Moi, je suis Dieu entier. Et toute personne sur Terre est Dieu. Il n'y a pas un Dieu.
Hein. Oui.
Alors bon, après le mot, il y a des mots. Ce mot hérisse le poil de certains.
Oui.
Eh bien, on appelle ça comme on veut, la source, l'énergie.
Oui, c'est qu'un nom, de toute façon.
Bon, ça, c'est une question de vocabulaire, après. Mais il y en a d'ailleurs qui sont tout à fait d'accord avec cette idée, mais ils ne peuvent pas employer le mot Dieu. Bon, c'est parfait, hein, c'est très bien. Tu vois. Mais ça, c'est important. Le fait de dire, ouais, tu vois, ce premier principe, nous sommes créateurs de tout ce qui nous arrive, parce que c'est nous qui l'avons créé. Et nous avons tout créé. Nous avons tout créé. Il y a une phrase que j'ai écrite tout à l'heure, mais qu'on emploie très souvent, c'est de dire « Rien n'existe à l'extérieur. Tout vient de l'intérieur. Tout vient de moi. Rien n'existe à l'extérieur de moi. Rien. Rien n'existe à l'extérieur de moi qui ne soit le fait de mes mémoires. » Et ça, c'est important. C'est une phrase importante, ça. Ouais, je continue. J'écrivais un texte tout à l'heure, justement, je disais ça. Et ensuite, je disais « La paix commence avec moi. » Bien sûr que si je suis en paix, mon environnement sera en paix. Tout à l'heure, je disais, enfin à l'instant, je disais, rien n'arrive que, je veux dire, qui ne soit de notre fait. Nous sommes créateurs de nous, de tout. Mais nous sommes créateurs de notre incarnation. Nous sommes créateurs de tout ce qui nous arrive. Et nous avons créé, avant d'arriver sur cette terre, nous avons créé le scénario de notre vie. Personne ne l'a fait pour nous. Ce qui nous arrive n'est jamais le fait du hasard. On l'avait prévu bien avant, il y a quelque temps, on ne sait pas quand. Mais tout était prévu par nous. Nous sommes créateurs de tout. C'est de la même manière qu'on a créé nos... Enfin, créé. Ils ont choisi nos parents, choisi nos frères et sœurs, choisi... Ça, maintenant, c'est une évidence pour beaucoup de gens. Hein.
Il y a d'ailleurs un film enfin, qui est plutôt à l'origine un livre psychographié par Chico Xavier, Nos Solars, notre demeure, qui montre bien ce côté que les âmes dans la cité, hein, qu'ils appellent la cité astrale, choisissent telle et telle chose à vivre avant de se réincarner,
bien
et
sûr,
que c'est effacé. C'est pour ça qu'on ne s'en souvient pas.
Ce film est fascinant. Hein.
Oui, et je crois même d'ailleurs qu'il a été traduit en français il n'y a pas très longtemps, il me semble.
Oh, alors tiens, c'est intéressant de savoir ça, parce que j'irais bien le revoir. Moi, je l'avais vu en espagnol.
Oui, mais enfin, moi, je l'avais vu en espagnol, enfin, en brésilien, sous-titré français, quoi, en VOST.
Ah, oui, mais moi, je l'ai vu en espagnol.
D'accord.
Oui, c'est un film fascinant, hein, bien sûr. Et c'est vrai que ce film nous montre bien comment les choses se passent, en quelque sorte. Hein. Ouais. Mais c'est ça, pour moi. Moi, j'ai fait une expérience de sortie du corps, une NDE ou une EMI, on appelle ça comme on veut. Et c'est vrai qu'à partir de cette expérience, il m'est apparu un peu tout ça. Hein. C'est à partir de là où j'ai essayé de comprendre, essayé de... Et voilà. Bien sûr que c'est ce que je dis souvent dans les stages, que de comprendre que nous ne sommes pas notre corps. Quoi. Et d'ailleurs, dans mon expérience, je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, c'est vrai que j'ai ramené de plus fort de cette expérience et qui a changé ma vie complètement. C'est quand j'ai vu mon corps j'ai réalisé que je n'étais pas mon corps. Et ça, c'est une révélation tout à fait extraordinaire. Pourtant, la religion catholique, j'en avais fait un sacré bout. Hein. Mais jamais j'avais eu cette conscience-là, que je n'étais pas mon corps.
Oui, le procédé de ce qu'ils appellent le procédé de décorporation. Souvent, dans les EMI, oui. Les témoignages, c'est ce qu'ils parlent en fait. Ils sont très souvent devant, ils voient leur corps. Ils oui. disent, c'est pas moi.
Oui, mais moi, c'est ce que j'ai vu dans cette expérience, c'est ce qui m'a apparu très très fort. Je voyais mon corps hein, tout en bas, très loin là-bas. On essayait de le ranimer, bon, le cœur s'était arrêté. Et puis, j'avais une parfaite indifférence envers ce corps. Mais quand je l'ai réintégré, bon, je ne voulais pas revenir, mais on m'a dit, mais non, non, c'est pas fini, il y a encore un petit bout à faire. Oui. Bon, je suis revenu dans le corps. J'ai beaucoup souffert, mais après, je l'ai accepté, ce corps. Et là, j'ai compris qu'il fallait en prendre soin. C'est vrai que nous ne sommes pas notre corps, c'est notre véhicule. Nous ne sommes pas notre corps, nous sommes une âme, hein, véritablement, c'est notre véritable identité. Et notre personnalité, c'est notre corps. Vous voyez la différence, hein, c'est ça, entre l'identité et la personnalité, c'est, je fais cette différence. Et c'est vrai que nous ne sommes pas notre corps, nous sommes une âme. C'est ça notre véritable identité. D'ailleurs, une chose que Emilio Carrillo, j'emprunte beaucoup, par exemple, il dit, tu vois Cédric, si tu vas voir à ton médecin, et puis il te dit, il t'apprend comme ça, brutalement, vous avez un cancer. Ben, tu vas lui dire, mais non docteur, je n'ai pas de cancer. Et il va te dire, mais comment, je viens de voir, j'ai des examens, j'ai tout, vous avez un cancer. Et tu vas lui dire, mais non docteur, je n'ai pas de cancer. Mon corps peut-être a un cancer, mais pas moi. Moi, je ne peux pas avoir de cancer. Je trouve cette répartie vraiment intéressante, amusante. Parce que c'est ça la réalité. Le oui. corps, lui, il a des maladies. Mais l'âme ne peut pas être malade. Hein. Elle est éternelle. Alors, tu sais pourquoi le corps, pourquoi on a beaucoup de peur? Pourquoi on a du mal à nous débarrasser de nos peurs?
Non, du tout.
Tout simplement parce que quand on arrive sur cette terre, le corps, lui, on intègre un corps. Et le corps, lui, il sait tout de suite. Parce que le corps, lui, d'un coup, il se dote d'un mental qui va créer cet ego. Hein, donc, c'est cet ensemble-là. Et l'ego, lui, il sait, lui, qu'il a une date de péremption. Il sait qu'un jour, il va mourir. Et c'est ça qui fait qu'il a beaucoup peur. L'ego a toutes les peurs du monde. C'est l'ego qui détient toutes les peurs. L'âme n'a pas peur. Elle sait qu'elle ne mourra jamais. Elle a un grand sourire en permanence parce qu'elle sait qu'elle ne va pas mourir. Tout va bien pour elle. L'ego, lui, par contre, il sait, lui, qu'il a une date de péremption, mais il ne sait pas quand elle va intervenir, cette date. Donc, il a beaucoup peur. Et c'est l'ego qui nous amène toujours, qui nous fait ressortir nos peurs. C'est l'ego. L'ego, c'est ça. Il baigne dans la peur. Voilà. Et parce que lui, il a une date de péremption. Il a juste une date de péremption. Il sait qu'il va mourir un jour. Et c'est ça qui fait la différence. Tu vois ?
Tout à fait.
Emilio Carrillo le raconte souvent. Ça. La date de péremption de l'ego.
Oui, comme les produits dans les supermarchés. Pareil.
Exactement, exactement. Mais la différence, c'est qu'il ne sait pas la date. Alors là, lui, ça redouble sa peur. Oui. Et toutes les peurs viennent de là. Toutes les peurs viennent de là. Le corps sait qu'il va mourir. Mais il ne sait pas quand. Et nous, on s'identifie au corps. Et c'est ça qui est terrible. Donc on dit, je vais mourir un jour. Non, tu ne vas pas mourir. Ton corps va mourir. Ça mm. Et c'est ça qui... Quand on est dans cette conscience, les choses sont un peu différentes. Ça change notre regard sur les êtres, sur les choses, mais sur nous-mêmes surtout. Et c'est ça, ce changement de regard qui est important.
Alors, juste avant de reprendre, pour les auditeurs qui nous écoutent actuellement, donc je vous rappelle que vous écoutez l'émission Spiritualité en question avec Jean Gracier et que vous pouvez lui poser des questions en direct et il y répondra bien sûr. Donc, rendez-vous sur le site www.radioterrazen.net en cliquant sur le bouton poser une question et indiquez votre prénom et votre question que vous voulez poser. Alors, pour reprendre justement la petite anecdote de la mort, ça me fait penser à un livre un best-seller de Dan Millman qui a été adapté aussi en film,
Mais
et que
magnifique.
dedans, Socrate, enfin Socratise, parce que Dan Millman l'a surnommé comme ça, hein, en fait, c'est un monsieur qui est russe, je ne sais plus son nom, et à un moment, il lui a dit que, par rapport à la mort, il lui a dit, c'est comme la puberté, sauf que c'est effectivement un peu plus radical que la puberté, mais il faudrait pas en avoir peur. Il a dit, par contre, ce qui fait peur, c'est que beaucoup de gens ont peur de la mort, mais en fait, ce qui est la plus grande tristesse, c'est qu'ils ne vivent pas.
Et bien sûr, parce que quand on a peur, on ne vit pas, on est toujours dans la survie. C'est différent. La plupart des gens sont dans la survie, mais ne vivent pas. Ils ne savent pas ce que c'est que de vivre. C'est ça qui est dommage, c'est ça qui est malheureux, de voir les gens qui sont dans la survie. Parce que quand on est bourré de peur, on est toujours dans la survie, hein, on ne vit pas. Mais vivre, c'est tout autre chose, vivre. Et ça, c'est quelque chose que. Qu'on n'apprend ni à l'école, que les religions ne nous apprennent pas. Qu'est-ce que c'est que de vivre? Vivre, c'est justement apprécier tout ce qui arrive, tout ce qui arrive, même une peur. Mais vivre la peur, la vivre et non pas la rejeter. Par exemple, si je me sens dévalorisé ou frustré parce qu'il est arrivé telle ou telle chose, bien je vis ma frustration. Ensuite, je la transforme. Mais je commence par la vivre. Par l'aimer, l'accepter, et je peux la transformer. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille et de transformation en transformation, on élève notre niveau de conscience. Et là, on peut se dire que peu à peu, je vis, et je ne suis pas dans la survie. Tu vois? Y a une histoire qui peut l'illustrer, et c'est vrai, c'est dans le lâcher-prise total. Par exemple, imaginons que. Je ne sais pas si je ne l'ai pas raconté la dernière fois, je ne sais plus ce que j'ai dit la dernière fois. Je crois que je l'ai raconté, Cédric, tu me diras. Imagine que tu navigues sur un canoë dans une large rivière, mais avec un courant très fort, et puis que tu chavires. Tu es en plein milieu de cette rivière, avec un courant très très fort. C'est difficile d'imaginer, mais qu'est-ce qu'on fait quand dans ces cas-là? On est pris de panique? Et on va vers le point de la rive le plus proche. Et on nage très très fort pour arriver vers le point de la rive, pour être en sécurité, hein. Faisant cela, on nage à contre-courant. Faisant cela, on nage à contre-courant. Mais parce que il y a la rive à 3 mètres, et on nage, on nage, on nage. Alors, on peut peut-être y arriver. Mais bien souvent, on ne va pas y arriver, et le courant va nous emmener plus loin. Et on continue de nager. Et on va s'épuiser, et on va mourir. Eh bien, c'est ce que font les gens. La plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait bien souvent dans la vie. On est toujours à contre-courant. On nage à contre-courant. Là, on est dans la survie, hein, complet. Et nager à contre-courant, ben, ce sont ceux qui ont des objectifs, qui ont des pleins de projets, et puis ils sont en train de. Quand ils ont un objectif, ils sont là dans la lutte, ils n'ont pas bien réfléchi, ils foncent, ils foncent, ils foncent. Et c'est toujours très difficile, toujours très difficile. Hein. Ça, c'est dans la survie. Après, il y a une deuxième position, une deuxième solution, c'est de nager dans le sens du courant. Et là, c'est beaucoup plus facile. Ah, là, c'est beaucoup mieux. Nager dans le sens du courant, c'est formidable. Sauf que notre idée est toujours de rejoindre la rive. Parce qu'il y a toujours la sécurité. On est mieux sur la rive que dans l'eau. Et donc, on nage en contre-courant, dans le sens du courant. C'est beaucoup plus facile, d'accord. Mais je suis toujours dans la survie. C'est plus facile, mais je suis dans la survie. Et alors, il y a une troisième option. Eh bien, c'est de ne plus nager du tout, de faire le bouchon et se laisser flotter. Mais c'est ça ce que j'appelle vivre. Là, tu te confies complètement à ton âme. Tu bannis toute peur, tu effaces toute peur et tu te confies à ton âme. Et tu sais que ton âme va t'amener exactement là où tu dois aller. Tu vois, là, c'est encore un exemple. J'aime bien cette métaphore. Ça, c'est Emilio Carrillo qui la raconte aussi. Tu vois que je m'inspire beaucoup de lui. Et ça, j'aime bien parce que là, quand la troisième option, c'est ça véritablement vivre. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est dans cet état, à ce moment-là, regarde, c'est ça qui est fantastique. À ce moment-là, tu fais un avec l'eau, tu fais un avec le ciel et tu fais le un avec l'univers. Là, tu es dans l'unité complètement. Parce que quand on est dans les peurs et dans la survie, on est toujours dans la séparation, dans la dualité, toujours dans la séparation. Mais quand tu lâches prise totalement et tu te laisses guider par ton âme, là, tu es dans l'unité complète, tu es dans l'instant présent et tu es dans la vie avec un très grand V, tu vois ? Voilà. Pour moi, c'est ça, la vie.
D'accord, ok. Justement, pour parler pour une autre question, parce qu'on le voit très souvent, et moi aussi je le vois et j'en entends parler, c'est qu'est-ce que c'est que vivre le moment présent ?
Ah oui, vivre le moment présent. Eh bien, ouais, il y a trois temps, hein, on le sait, il y a le passé, le futur et le présent.
Tout à fait.
Dans cette incarnation, on a eu besoin d'avoir le passé et on a eu besoin d'avoir le futur. Sans quoi, le mental, lui, peut pas se... il a besoin de ses points de repère. Dans la réalité, on ne sait que, on sait bien qu'il n'existe qu'un seul temps, c'est l'instant présent. Quand on passe de l'autre côté, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. Il n'y a que l'instant présent. Et ça, on ne peut pas l'imaginer avec notre mental. Notre mental ne peut pas imaginer ça. Qu'il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé. En fait, il y a une chose aussi qui est importante de dire. C'est que le mental ou l'ego, dans le passé, le mental et l'ego ne puisent leur information que dans le passé, ou aussi dans le futur. Ils ne vivent que dans le passé ou dans le futur. Mais quand on arrive à être dans l'instant présent, et ça on y arrive aussi de temps en temps, l'ego, hop, il perd pied. Il ne peut plus du tout fonctionner, parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas fonctionner dans l'instant présent. Pour ça que c'est très important d'être dans l'instant présent. Mais alors, comment vivre dans l'instant présent ? Ah, alors ça, eh bien voilà l'exemple que j'ai raconté juste avant. Quand tu lâches prise, tu fais le bouchon, tu es dans l'instant présent. Tu ne peux être que dans l'instant présent. Tu vois, c'est cet état vide dont je racontais tout à l'heure quand j'étais face à ma vitrine. Je suis dans le présent. Parce que là, il n'y a plus rien qui compte. Je suis dans un état complètement dénué de tout, vide, nu, complet. Et là, je suis dans l'instant présent. Je ne peux pas être autrement que dans l'instant présent. Quand je suis connecté à mon âme, je suis que dans l'instant présent. Je ne peux pas être dans le passé ou dans le futur. Dans l'instant présent. Quand je veux être connecté, c'est toujours dans l'instant présent. Tu vois ? Donc, on y est souvent, mais ça aussi, on ne le sait pas.
Oui.
De temps en temps, on sait vivre l'instant présent. Tout le monde sait le faire. L'important, c'est de le vivre en conscience. Alors, par exemple, quand on fait une méditation, très simplement, c'est quoi une méditation ? C'est arrêter de penser. Hein ? Si on veut résumer en deux mots, c'est arrêter le flot des pensées qui nous assaillent sans arrêt. Et si je sais faire ça, je suis dans l'instant présent. C'est rien d'autre. Hein ? Si je sais faire ça, parce que les pensées, ce sont des créations de l'ego qui nous amènent toujours dans le passé ou dans le futur, tout le temps, qui nous sortent de l'instant présent. Qui nous sortent de l'instant présent. Si on savait vivre dans l'instant présent, continuellement, on ne serait plus malade. Les maladies, elles prennent naissance toujours dans le passé ou dans le futur. Principalement dans le passé. Dans l'instant présent, aucune maladie peut se développer. Tu vois ? C'est l'instant privilégié, ça. Mais c'est sûr que nos pensées nous amènent toujours dans le passé, dans le futur. Et c'est sans arrêt, quoi. On est ballotté comme une balle, quoi.
Et d'ailleurs, alors je ne sais plus si c'est Confucius ou un autre philosophe qui a dit ça. Il a dit, si vous êtes anxieux, c'est que vous vivez dans le futur. Si vous êtes triste, c'est que vous vivez dans le passé. Si vous êtes serein, c'est que vous vivez le moment présent. Donc je ne sais plus de qui c'est. Alors c'est peut-être pas les mots texto, mais grosso modo, c'est pour reconnaître l'état dans lequel on est, lequel temps on vit.
Oui, voilà. Oui, mais c'est assez juste. C'est assez juste. Ouais. C'est assez juste de penser ça. C'est pourquoi tout à l'heure, quand je te disais mes six étapes, je termine par la joie. Si tu es dans la joie continuellement, il ne s'agit pas d'être dans une joie béate et puis de rire de tout comme ça, non. Oui. Une joie intérieure profonde qui est l'émanation de l'acceptation, d'être sans jugement, d'être dans le lâcher-prise. C'est cette joie qui t'envahit. Hein. Et bien, quand tu es dans cette joie, tu es dans l'instant présent. Tu es vraiment le plus possible dans l'instant présent. Ce qui n'exclut pas que de temps en temps, une pensée vient t'assaillir et puis oui, t'amène ailleurs. Hein. Voilà. Ça, c'est notre lot à nous, hein, d'être incarné, d'être justement envahi par les pensées sans arrêt. Mais oui, mais ta phrase est assez juste. Oui, oui, bien sûr. Tout ce qui est stress, tout ce qui est émotion, provient du passé ou du futur. Principalement du passé ou du futur. Toutes nos émotions, elles viennent de là. Elles ne peuvent pas venir de l'instant présent. L'instant présent, c'est un instant privilégié où tu es. C'est complètement différent, tu vois. Voilà ce qu'on peut en dire.
D'ailleurs, même par rapport au moment présent, bon, oui. C'est vrai que c'est un auteur que j'affectionne particulièrement parce qu'il m'a beaucoup parlé et apporté beaucoup de choses. Dan Millman, il parle beaucoup du moment présent et de la puissance que le moment présent nous procure aussi. Enfin, puissance, pas devenir oui. Superman, mais c'est une force oui. qui nous permet d'être vraiment, on va dire, de oui. tenir bon, de plus être une feuille qui oscille au sens du vent, quoi.
Tout à fait, tout à fait. Mais ce que dit Dan Millman dans son film, dans son livre, c'est tout à fait extraordinaire et c'est très proche, mais c'est exactement ce qu'on dit même quand on enseigne au Ho'oponopono. C'est d'être dans cet état vide. Et cet état vide, c'est ça qu'il enseigne. C'est d'être ouais. dans cet état où tu es vraiment dans l'instant présent. Et là, tu peux développer toute la puissance. Parce que pourquoi ? Parce que tu es complètement connecté à ton âme.
Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, c'est même...
Ça ne peut être que dans cet instant-là. Mais cet instant, quand on pratique Ho'oponopono, quand on nettoie ses mémoires, on arrive à cet instant-là. Cet instant qu'on appelle instant de vide, ou instant zéro, où on peut dire, par un mot qu'on connaît tous, être en paix. Voilà, être en paix. Et quand on est en paix, il n'y a rien qui existe. Je suis là, centré, dans l'instant présent. Il n'y a rien d'autre qui existe, je ne pense à rien, aucune pensée vient m'assaillir, et je suis dans l'instant présent. Et là, toute la puissance peut se développer parce que je suis connecté.
Et souvent, j'entends le terme aussi qu'on dit « je suis présent ».
Oui, 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 oui.
Quelque part, ça fait le double mot, le mot « connecté oui. » et être dans l'instant présent.
Oui, bien sûr, mais ça c'est encore une question de vocabulaire. Voilà, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Mais c'est vrai que Dan Millman, c'est fabuleux. C'est magnifique. Mais ce qu'il dit, c'est exactement, avec d'autres mots, c'est ce que nous disons quand on enseigne au Ho'oponopono, c'est ça. Et tu vois, mon exemple devant la vitrine, c'est exactement ça. Mmh. Alors, bien sûr, c'est pas un stress énorme. C'est une petite chose dans la vie. Hein, c'est pas... Mais c'est pareil. Le processus est le même. Ouais, je me mets dans cet état de paix en quelques secondes, pouf, à ce moment-là, tout arrive. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. L'important, c'est d'être sans attente. Ça, c'est important. Parce que quand on a une attente, quand on a un objectif, là, on est dans l'ego et ça bloque. Hein. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'avoir. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir l'objectif. Hein. Mais ça veut dire qu'on va avoir l'objectif, mais on va avoir le revers de la médaille un moment après, ou plus tard. Tu vois ce que... oui. C'est-à-dire que c'est pas la bonne voie qu'il fallait prendre. Parce que c'est l'ego qui nous y a amené. Voilà. C'est pour ça que c'est... Là par exemple, où on peut faire le distinguo entre qu'est-ce qui parle, c'est l'ego ou c'est l'âme. Quand une phrase commence par « je veux »,« je désire »,« je souhaite »,« je cherche à »,« je cherche à comprendre », là c'est toujours l'ego. C'est toujours l'ego. Donc, une phrase qui commence par je veux, je souhaite, je désire, méfiance. Tu vois,
oui.
ça c'est un indice comme ça. Voilà. Donc, l'âme ne veut rien. Quand tu ne veux rien, tu as tout. Donc, si c'est une phrase que je dis souvent, quand tu ne désires plus rien, ben, tu as exactement ce qui doit t'arriver. Mais l'ego, lui, ne sait pas ça. L'ego ne sait pas. Il ne sait pas. Il n'y a que l'âme à qui on peut se fier.
Ouais. Ça, c'est très souvent le cas. Moi, c'est aussi par rapport à des expériences personnelles. Et je pense que les auditrices et auditeurs qui nous écoutent actuellement ou qui nous écouteront au podcast, je pense que certains vont très certainement se poser des questions en se disant, bah tiens, oui, effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Et dans un sens, quelque part, je pourrais dire que je suis heureux que cette émission ait fonctionné, et je pense que toi aussi, car quelque part, ça aura amené des personnes à se poser des questions, à se dire, ah bah tiens, j'avais pas pensé à ça. Quelque part, ça amène une nouvelle façon de voir.
Ben oui, espérons, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Quelque part, c'est un peu le but de toutes ces émissions qui sont passées, enfin toutes, ce n'est que la deuxième, mais toutes les suivantes qu'il y aura, c'est un peu le but d'apporter justement des réponses aux questions que les gens se posent et aussi peut-être les amener à être sur ce chemin d'éveil spirituel.
Bien sûr, oui, c'est des prises de conscience continuelles qui nous font élever notre niveau de conscience et voilà, c'est ça qui importe, hein, c'est ça qui importe, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Justement là, parce qu'on arrive à la fin de cette heure d'émission. Alors, tu m'avais parlé tout à l'heure aussi que tu voulais parler d'un événement important. Donc, si tu veux, tu peux en parler actuellement.
Oui. Voilà, donc ça fait pas mal d'années avec mon épouse. Ça fait plus de 5 ans maintenant qu'on enseigne au Pono Pono. On a été les tout premiers il y a plus de 5 ans maintenant. Et les stages que nous faisions, on continue encore, mais le tout dernier va être donné au mois de décembre, le 12 et 13 décembre à Paris. Je dis le tout dernier parce que c'est le tout dernier de de 2 jours. C'est des stages de 2 jours que nous donnions. Et à partir de l'année prochaine, quelque chose va changer. Voilà. Ils seront plus de 2 jours, ils seront un petit peu plus longs, ils seront différents. Parce que, pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on évolue nous-mêmes. Voilà. Nos stages ne sont plus les mêmes de ceux que nous donnions il y a plus de 5 ans ou il y a 4 ans. Et nous avons beaucoup évolué. Et donc nos stages doivent évoluer aussi. Alors ils évoluent, mais c'est vrai que là maintenant, on est en train de réfléchir et on a commencé à travailler sur quelque chose d'un petit peu différent. Ce sera pareil, mais ça sera différent. Voilà. Ils seront sur 3 jours, dans des salles plus grandes. Bref, voilà. Donc on va l'annoncer, on l'annoncera au courant décembre. Mais donc le tout dernier stage que nous faisons, que nous donnons depuis ces dernières années, aura lieu à Paris le 12 et 13 décembre. Voilà, c'est le tout dernier. Voilà ce que je voulais dire, tout simplement. Voilà,
D'accord. Ok.
voilà.
D'accord. Donc, eh ben, en fait, cette émission va donc toucher à sa fin. Donc, encore merci, Jean, pour participer à ces émissions-là et répondre aux questions des auditeurs, même si ce soir on n'en a pas eu. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas osé. Alors, surtout, n'hésitez pas. Hein, il n'y a pas du tout de jugement. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein, il n'y a que des questions intelligentes, même si elles vous paraissent bêtes quelque part. C'est qu'il y a sûrement quelque chose qu'il vous manque un petit élément qui pourra être apporté ou non, ça tout dépendra de la question. Hein. Mais voilà, surtout n'hésitez pas à poser vos questions, hein. C'est gratuit, hein. C'est pas payant non plus. Et puis, comme je disais il y a quelques instants, il n'y a pas de questions bêtes. Hein, je pense que Jean, tu vas confirmer aussi sur ça.
Non, pas du tout. Non, non. Ce qui est bête, c'est justement de ne pas en poser quand on veut en poser.
Voilà.
Donc, il faut toujours oser. Il
Voilà.
faut toujours être soi-même et ne pas avoir honte de
Tout à
poser
fait.
des questions. La honte, c'est encore une des manifestations de l'ego. La honte. Donc, voilà, il faut poser des questions. Il ne faut pas avoir peur. Toutes les questions sont bonnes à poser parce que on apprend toujours quelque chose des réponses. Et c'est valable pour tous, donc voilà, c'est vrai qu'il faut poser des questions. Dans nos stages, on invite les gens à en poser, ils en posent, et nous y répondons le mieux que nous y pouvons, le mieux que nous pouvons.
Voilà. Et
Voilà.
puis ça permet une interactivité aussi. C'est
Oh ben
important.
oui, bien sûr, mais c'est important. Il y a une chose que je voulais dire, c'est que mon site, si on veut avoir des renseignements sur ce que nous faisons, c'est donc Éveil et Santé, donc www.éveilletsanté.fr. Voilà.
Voilà. De toute façon, si vous ne vous rappelez pas du nom, vous pouvez le retrouver dans la page, enfin dans la section partenaire du site de radioterrazen.net. Voilà. Il est en partenaire aussi. Donc, ben, merci Jean pour cette émission. Et puis, ben, je te donne rendez-vous donc dans un mois, hein, maintenant, hein, pour le mois de novembre. Donc, la date, je ne la connais pas particulièrement, parce que je n'ai pas en tête. Je n'ai pas un calendrier non plus intégré en tête. Mais de toute façon, vous retrouverez sur la page d'événements de la page Facebook ou alors sur le site de www.radioterrazen dans la section programmation. Là, vous retrouverez tous les programmes des émissions en direct et aussi de la radio 24-24. Hein, donc, on continue pour connaître toute la programmation qui se fait en temps réel. Voilà. Donc, ben, je te souhaite une très, très bonne soirée. Et puis, je te dis donc dans un mois maintenant.
Merci, Cédric. Et à très bientôt. Bonne soirée et dans un mois. Voilà, merci. Merci.
Voilà. Donc, je vous dis une très bonne soirée à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Et puis, surtout... N'ayez pas peur, posez vos questions, hein, il n'y a pas de souci. Et comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de questions bêtes. Allez, je vous souhaite une très très belle soirée, un très bon week-end aussi, et à dans un mois maintenant. Allez, ciao ciao.